À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Proximus out, Lotus in. Le Belvin a procédé à la révision de sa composition. L'indice est censé être mieux équilibré. En réponse aux socialistes qui prônent la semaine des 32 heures, les libéraux flamands proposent une semaine de 48 heures. Je vous explique cela dans un instant. Fin de parcours pour la start-up MedTech Earth Kinetics. Faute d'avoir pu lever les fonds nécessaires, elle doit débrancher la prise. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans le brief.
Le brief, c'est info, dès 7h.
Lotus Bakeries entre au Belvinte. Enfin, l'opérateur boursier Euronext a annoncé hier que l'indice phare de la Bourse de Bruxelles accueillera pour la première fois le fabricant de spéculoos Lotus Bakeries. Une bonne nouvelle que beaucoup attendaient depuis des années. Bonjour Xander Van den Broek.
Bonjour Laurent.
Xander, pourquoi, malgré sa santé de fer, Lotus Bakeries n'avait pas intégré le Belvin jusqu'ici?
Ces dernières années, Lotus s'est vraiment imposé comme star incontestée à la Bourse de Bruxelles. L'année passée, elle a fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Son cours a été multiplié par plus de 100 en 20 ans. Mais jusqu'ici, en effet, elle ne pouvait pas prétendre à un siège dans le Belvin. En fait, le prix très élevé de l'action a fait en sorte que peu de transactions avaient lieu sur Lotus Bakeries. Or, Euronext impose des critères de liquidité stricts qui font qu'un certain nombre d'actions doivent être échangées chaque année. Et ces critères n'ont finalement été atteints que cette année, alors que l'action a bondi 50% en un an. Et c'est donc clairement cette hausse de l'action qui a permis à l'action d'avoir plus de transactions et qui a permis aussi à Lotus d'entrer enfin dans le Belvinte. À noter que le critère de liquidité va être assoupli pour les prochaines révisions de l'indice. C'est ce qui a aussi été annoncé par Euronext mercredi.
Alors l'autre arrivant dans le Belvin, c'est l'armateur anversois Euronav. Ça c'est plutôt une surprise, puisque l'on attendait plutôt le retour de Colruyt après un an d'absence dans le Belvin. Lotus Bakeries et Euronav remplaceront le producteur d'acier inoxydable Aperam et le numéro 1 des télécoms Proximus. Un coup de tonnerre sans être tout à fait étonnant en fait, Xander.
C'est vrai que ça n'étonne pas vraiment, puisque Proximus était certes arrivé en 2004 sous le nom Belgacom à la Bourse de Bruxelles, mais ces dernières années, sa situation financière s'est fortement détériorée et les marchés ont clairement été à la vente sur le titre, qui a perdu plus des deux tiers de sa valeur en 5 ans.
Merci Xander. Le nombre de travailleuses indépendantes est en hausse constante à Bruxelles et en Wallonie. Par contre, rares sont celles qui s'en sortent financièrement. Un tiers d'entre elles n'est pas autonome financièrement et une indépendante sur deux estime que son activité n'est pas suffisamment rentable pour en vivre décemment. C'est ce qui ressort de l'étude publiée par le réseau Diane et l'UCM. Alors comment expliquer que le revenu des femmes entrepreneurs reste encore souvent précaire et surtout bien inférieur à celui des hommes? J'ai posé la question à Isabelle Morgante, responsable com de l'UCM.
Ce qui se passe en fait, c'est que la femme a encore des croyances qu'on appelle des freins. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je suis crédible? Elles ont aussi du mal par rapport à la relation à l'argent. On se rend compte qu'un homme, pour une prestation, va demander le prix juste. La femme, elle, va être un peu gênée de demander un prix. Et donc, elle va un peu brader son expertise. Ce sont vraiment des freins personnels qui empêchent la femme, je veux dire, de mener le même chemin entrepreneurial que l'homme en 2024 et en Belgique. À côté de ça, il y a des problèmes sociétaux. Au-delà des discours autour de la parité homme-femme dont on entend beaucoup parler dans plein de domaines actuellement, elle doit jongler entre sa carrière indépendante et tout ce qui est colle à la vie d'une maison et d'un ménage de manière générale.
Tout ceci n'empêche pas les femmes d'être de plus en plus nombreuses à se lancer. Elles représentent désormais 35% des indépendants à l'échelle nationale et c'est en Flandre que les entrepreneurs sont les plus nombreuses. Après la semaine des 32 heures, celle des 48 heures. À la mi-février, le PS lançait l'idée d'une réduction collective du temps de travail à 32 heures par semaine pour un salaire inchangé, voire même supérieur. Aujourd'hui, l'OpenVLD propose la semaine des 48 heures. Mais on ne parle pas tout à fait de la même chose. Aujourd'hui, un salarié peut réaliser jusqu'à 100 heures supplémentaires rémunérées par an, maximum. Une aberration pour les libéraux flamands, alors que le marché du travail est en tension avec des pénuries sévères de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et alors que les employés seraient demandeurs d'heures sup pour augmenter leurs revenus et leur pouvoir d'achat. La semaine des 48 heures présentée par le député fédéral Vincent Van Quickenborn permettrait aussi de lutter contre la concurrence des flexi-jobs, une forme d'emploi défiscalisé qui est pourtant promue par son propre parti. Du côté des experts, l'économiste du travail Sten Barth juge une telle disposition dangereuse. Certains employés pourraient être fermement incités à prester ces 48 heures maximum par semaine, avec le risque, souligne l'économiste, de rejoindre les rangs des malades de longue durée, de renforcer ainsi finalement les pénuries. Un caddie intelligent qui vous dispenserait de passer en caisse et vous rappellerait votre liste de courses. Ça vous dit ? Colruyt teste le concept dans son magasin de Hall, qui est le véritable laboratoire de l'enseigne de grande distribution. Ce smart cart est doté d'un écran tactile, il est équipé de capteurs et de caméras, et il est connecté à votre carte de fidélité, et donc il pourra même débiter directement votre compte en banque du montant du ticket. Accessoirement, il devrait également permettre de prévenir les vols. Gilles Godin est responsable de l'innovation chez Colruyt, il explique les principales fonctionnalités de ce caddie intelligent.
En fait, la stratégie du groupe Colruyt est d'investir dans l'innovation. Et donc ici, l'innovation va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on a lancé un environnement qui s'articule autour de l'application Extra. Et donc, le client peut établir sa liste de courses. Ensuite, pourra venir au magasin, utiliser le Smart Cart. Sa liste de courses sera automatiquement intégrée au Smart Cart. Dès qu'il va scanner un article, l'article disparaîtra de sa liste de courses. Et il pourra, à la fin de son processus d'achat, effectuer le paiement via l'application aussi. C'est pas que nous progressons en fait en utilisant cette technologie. On doit aussi apprendre à effectivement la maîtriser, puisqu'il s'agit en partie d'une sorte d'intelligence artificielle, puisqu'il y aura une combinaison de trois technologies, à savoir la prise du poids du produit, le scanning du produit, mais aussi la détection du produit via les capteurs vidéo. Alors aujourd'hui, on est dans une phase pilote où nous testons ceci avec les membres du personnel du groupe Colruyt. Ça va durer quelques semaines. Ensuite, on va affiner le système et l'objectif est de lancer ça partout en Belgique, là où les besoins sont nécessaires.
Un passage à la caisse reste pour l'instant nécessaire. Le fameux caddie ne scanne pas encore les produits sans code barre, comme les fruits et légumes, mais c'est en cours de développement. Et puis à terme, cela ouvrira la porte à d'autres innovations, notamment dans l'approvisionnement des rayons ou la gestion des caisses. Triste nouvelle pour la start-up wallonne Earthkinetics, la société spécialisée dans la détection des insuffisances cardiaques grâce à l'intelligence artificielle, n'a pas réussi à séduire de nouveaux investisseurs. Le tribunal de l'entreprise de Charleroi a tout récemment prononcé sa faillite. Cette spin-off de l'ULB, créée en 2019, était encore considérée il y a quelques mois comme une potentielle pépite de la technologie médicale. Elle avait développé une technologie permettant d'évaluer la fonction cardiaque sur la base des vibrations du thorax avec un simple smartphone. Un monitoring ultra simplifié, donc qui n'a finalement pas pu passer l'étape de la commercialisation. Le financement nécessaire, 10 millions d'euros, était pourtant raisonnable pour le secteur de la santé et des sciences du vivant. Mais mauvais timing, la start-up a fait face à la frilosité ambiante des investisseurs, une frilosité qui a déjà fait sombrer d'autres sociétés belges actives dans les technologies médicales, comme Osimis notamment. Elia limite la casse. Le gestionnaire de réseau de transport électrique vient de publier ses résultats pour 2023 et le chiffre d'affaires a légèrement baissé par rapport à l'année précédente. Même chose pour le résultat net, ce qui est finalement plutôt positif alors que le contexte de 2023 s'est montré moins favorable pour Elia. Maxime Van de Weyer, les résultats à la baisse ont-ils déçu les marchés ?
Alors, ils ont baissé par rapport à l'an dernier, mais non, ils n'ont pas déçu, parce que chez Elia, ce qui est important, c'est surtout les montants qui sont investis. Hein. Elia a des objectifs très ambitieux en termes d'investissement en Belgique et en Allemagne. Et là, on voit qu'en 2023, la base d'actifs régulés, donc ce qui permet à Elia de retirer des revenus, a augmenté de 12%. ce qui donne des perspectives de rendement à long terme très importantes. Et finalement, c'est ça qui compte pour les investisseurs.
Sur le plan des investissements, justement, le gestionnaire d'infrastructure a toutefois tenu ses promesses en 2023. Plus de 700 millions injectés dans le réseau belge et plus de 1,6 milliard dans le réseau allemand via la filiale 50 Hertz. Elia a de fortes ambitions et a rappelé son plan d'investissement de 30 milliards d'euros entre 2024 et 2028. Comment vont-ils le financer?
Alors 30 milliards en 4 ans, c'est vrai que c'est absolument jamais vu. En dessous de ces 30 milliards, il y a 9,4 uniquement pour le réseau belge, le reste pour le réseau allemand. Comment est-ce qu'ils vont le financer? Pour l'instant, à très court terme, on parle essentiellement de dette. Mais Elia a aussi rappelé que dans les 5 prochaines années, après 2024, ils comptent lever 4 à 4,5 milliards d'euros de capitaux prêts. Là, ils vont aussi pouvoir compter sur leur actionnaire de référence Publité, qui a dit vouloir continuer à soutenir la stratégie de l'entreprise. Et ils disent aussi vouloir conserver leur stratégie de distribution du dividende, qui consiste à l'augmenter un petit peu chaque année. Ce qui peut paraître contre-intuitif quand une entreprise a beaucoup à investir, mais ce qu'Elia explique par la volonté de rester attractif sur les marchés et d'attirer de nouveaux investisseurs.
En Belgique, les trois projets emblématiques d'Elia sont la plateforme Princesse Elisabeth et les deux lignes à haute tension, Ventilus et la boucle du Hainaut. Les trois seraient toujours dans les délais, selon la CEO d'Elia, Catherine Vandenborre. Les taux d'intérêt baisseront cette année. C'est ce qu'a dit Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, devant le Congrès américain hier. Mais il n'a pas donné de date précise pour un tel abaissement. Le président de la Fed a aussi souligné le ralentissement de l'inflation qui se rapproche de l'objectif de 2%, sans l'atteindre encore. Un ralentissement qui n'a pas eu d'impact sur la croissance économique américaine. Le discours de Powell a plutôt rassuré les marchés. Wall Street termine en petite hausse dans l'attente aussi des chiffres de l'emploi américain demain. Aujourd'hui, la BCE, la Banque Centrale Européenne, devrait aussi faire preuve de prudence lors de sa réunion de politique monétaire. On ne s'attend pas non plus à une baisse des taux européens avant le mois de juin prochain. Et comme d'habitude, restez branchés sur nos différentes plateformes pour suivre l'actu en direct avec notamment le discours de Christine Lagarde à 14h45 sur l'écho.be. Merci à Julie Garrigue qui a préparé cette édition. On se retrouve demain. Ciao.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.